Bien, je crois qu'on va commencer. J'ai pas d'heure devant moi, donc je risque de parler pendant 2-3 heures. Vous m'arrêterez en temps utile. Nous allons reprendre un petit peu là où nous étions restés il y a 15 jours, donc où Claudia Sénic vous avait présenté toute une... Il y a des places à l'avant, si vous le souhaitez. Claudia Sénic vous avait présenté toute une série d'études... qui, sous le chapeau général de bonheur, entre guillemets, hein, et la question qu'on se posait était de savoir si le bonheur était dans le PIB. Aujourd'hui, nous aurons au séminaire M. Langlard et Mme Plateau qui sont à l'INSEE, qui nous diront ce que l'on fait actuellement à l'INSEE pour faire progresser la comptabilité nationale en prenant en compte éventuellement une série de... question qui avait été évoquée par Claudia Sénic. Moi, je vais revenir un petit peu sur ce qu'est la comptabilité, ce qu'est la comptabilité nationale, de point de vue pas vraiment technique, malgré tout, en essayant de relier ça à la théorie économique fondamentale telle que je l'ai présentée ici pendant assez longtemps et que je continuerai à la présenter aujourd'hui encore puisque la fois prochaine, je ferai mon cours de clôture. Donc, ce sera beaucoup plus large et je ferai un retour un petit peu sur ce que j'ai fait dans ces 10 dernières années. Alors d'abord, premièrement, mise en perspective, juste quelques mots hein, pour vous dire que vous parlez de l'essor de la comptabilité nationale, c'est un essor qui date d'après la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, mais l'idée de vouloir mesurer la performance économique au sens large, hein, c'est une vieille idée, hein, on la trouve, on y associe en général le nom de Petit, 1665, qui essayait de mesurer le revenu national, je ne sais pas si c'est anglais ou britannique, Keynes, qui, avec son tableau économique, qui doit dater de 1758, hein, et avec tout de derrière le mouvement des physiocrates. Entre les années 30 et les années 40, enfin là, au début du XXe siècle et avant les années 40, on note les contributions de Colin Clark, de Kuznets, de Léontief, qui a commencé à introduire les tableaux entrée-sortie. Hein, et on va mettre dans le tableau, parce que si on le présente en général comme ça, Keynes. Keynes, simplement parce que le développement de la comptabilité nationale est d'une certaine manière un peu une réponse, en tout cas un des stimulus de la développement de la comptabilité nationale, c'est évidemment la pensée de Keynes qui mettait l'accent sur la mesure de l'activité économique. Donc, il y a une accélération après la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement s'est généralisé. Hein, et donc, les comptabilités nationales se sont multipliées. Et il y a eu des codifications des méthodes. Alors, j'ai noté qu'en 1970, il y avait le système de comptabilité nationale de l'ONU qui a été promulgué et qui a servi à, si j'ai bien compris, à rationaliser et normaliser les méthodes. Alors pourquoi c'est... Je disais donc, j'ai parlé de Keynes. Pourquoi Keynes? Simplement parce que la crise de 1929 a mis l'accent sur l'importance qu'il y avait d'essayer de mesurer l'activité économique, avec l'idée que si on la mesurait, on pourrait mieux la contrôler, hein, avec l'idée que le gouvernement pouvait aider à réguler l'activité économique. Eh bien, naturellement, à l'arrière-plan de cette mesure, il y a des enjeux plus complexes. Hein, est-ce qu'on mesure, c'est uniquement l'activité économique. On aimerait bien aussi mesurer, d'une certaine manière, le bien-être économique. Et dès lors qu'on mesure, eh bien, on a tendance à vouloir comparer, soit dans l'espace, des comparaisons internationales, soit dans le temps. Ce qu'on peut dire à ce jour, c'est que tout cet effort, cet essor de la comptabilité nationale a abouti à, on peut dire, un succès considérable, hein, c'est-à-dire que peut-être un succès trop grand, si l'on veut, puisque les indicateurs de la comptabilité sont au premier rang du débat public sur l'économie. Quand vous discutez à la télévision sur l'état de l'économie, vous discutez de points de PIB, de taux de chômage, etc. Donc il y a une sorte d'hégémonie du point de vue, que d'une certaine manière, comme vous l'avez vu la dernière fois, ces études sur le bonheur que nous présentait Claudia Sénic essayaient de remettre en question d'une certaine mesure, tout en essayant de mesurer, dans une perspective différente. J'y reviendrai. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais essayer de passer du point de vue économique, vous montrer qu'il y a en fait entre le point de vue économique stricto sensu et le point de vue des études sur le bonheur, il y a tout un continu. Hein, il y a toute une série de zones intermédiaires. sur lequel la problématique est souvent assez mixte. Alors, je vais passer du point de vue économique le plus stylisé, c'est-à-dire je vais regarder ce qu'est la comptabilité nationale dans le modèle le plus simple que je puisse écrire. Et je vais prendre comme modèle simple un modèle dont j'avais parlé lorsqu'on avait parlé de macroéconomie. Ce n'est pas du tout un modèle keynésien, celui d'entre nous. Donc, je vous présente la comptabilité nationale dans ce modèle qui n'a absolument rien de keynésien. C'est simplement un modèle de cycle réel, aussi simple que... Je vais donc prendre un monde stylisé dans lequel il y a un seul bien agrégé à chaque période. Ce bien, une fois qu'il est produit, on peut soit le consommer, soit l'investir. C'est consommation plus investissement. Il y a un consommateur représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un consommateur représentatif? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont absolument identiques. C'est plutôt une manière plus réaliste de présenter les choses, dont je sais décrire les préférences. Donc, lorsque je vais m'interroger sur des questions comme le bien-être, j'aurai à ma disposition, à l'arrière-plan, les préférences que je connais. Alors, les préférences sont additives, c'est-à-dire que si je me place à l'époque T, qui est aujourd'hui, l'utilité de ce consommateur représentatif, c'est l'utilité de CT, une certaine fonction d'utilité concave, comme à l'habitude, plus une somme pondérée, actualisée, avec un taux de préférence pour le présent, bêta, de la même utilité aux époques ultérieures. C'est à chaque période, c'est la même fonction d'utilité U de CT, donc avec une décroissance de l'utilité marginale, donc, etc. Donc c'est le modèle standard pour réfléchir sur le capital, pour réfléchir sur la croissance, etc. Ce modèle est très simple, puisque à l'époque T, les conditions de production sont telles que on met du capital et du travail pour produire du bien. Alors si j'avais mon petit... Ah, j'ai pas le... Bon, bah, je voulais vous montrer avec mon petit instrument habituel, mais je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, les conditions de production, c'est que F de KL égale Q. Donc, vous mettez plus de capital, plus de travail, vous avez plus de production. Il y a une fonction de production qui est une fonction de production agrégée. Q égale C, la consommation, plus l'investissement. Alors, j'ai mis L. Je n'ai pas parlé de L, il n'est pas dans la fonction d'utilité, parce qu'à ce stade, je vais compliquer le monde. Le monde va devenir de plus en plus compliqué. Mais à ce stade, les agents représentatifs offrent une unité de travail, une quantité de travail... Alors, grand L, que je peux normaliser à grand L, mais qui est la même pour tous, dont la quantité agrégée est égale à grand L. Et donc, il n'y a pas de choix d'offre de travail. L'offre de travail est égale à la quantité de travail dont je dispose. Et puis, là-dessus, si je voulais commencer à faire de la macroéconomie à la mode de Chicago, je mettrais des chocs réels. Dans ce monde complètement, extrêmement simple, il y aurait des chocs de productivité qui dureraient un certain temps, et je regarderais ce qui va se passer dans ce monde. Alors, ce que je regarderais, là, ce que je vais regarder, mais en oubliant les chocs, parce que c'est pas mon propos, ce que je regarderais, c'est ce qui se passe à chaque période. À chaque période, ce que je vais observer, c'est du moins l'hypothèse que je fais, ça va être un équilibre de marché. Un équilibre de marché intertemporel, c'est-à-dire qu'à chaque période, il y a un prix pour le bien. Par définition, je dis que le bien, c'est le numéraire, son prix est égal à 1. Il y a un taux d'intérêt, petit r, qui est le taux d'intérêt sur l'épargne, ou le rendement du capital à l'équilibre. Et il y a un taux de salaire qui est W. Et il varie au cours du temps, à chaque période T. Et un équilibre intertemporel, c'est une suite de P, W, R, telle que, à chaque période, l'offre égale la demande sur le marché pertinent qui est ici, en particulier sur le marché du capital sur le marché de la consommation. Étant entendu, hypothèse qui n'est pas bénigne, que les agents ont des anticipations rationnelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prévoient complètement ce qui va se passer dans le futur et qu'ils prennent leurs décisions sur cette base. Ça, c'est ce qu'on ferait sur le front de la macroéconomie. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans ce monde-là, je peux me demander qu'est-ce que c'est que la comptabilité nationale. Dans ce monde, la comptabilité nationale, ce n'est pas trop compliqué. Il y a un seul bien. Et la production totale du bien, c'est Q, et je vais l'appeler le produit intérieur brut. Intérieur national, c'est dans mon monde, je suis complètement isolé, je ne ferai aucune distinction là-dessus, mais je vais l'appeler PIB parce que c'est le plus commode. Et le PIB, c'est égal à Q, la quantité du bien produite, qui est égale à C plus I. Par ailleurs, ce Q est égal au revenu national aussi. Le revenu national, c'est quoi? C'est RK. le rendement du capital multiplié par le niveau de capital qui est utilisé, plus WL, le salaire, donc c'est la somme des rémunérations du capital et des salaires. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Maintenant, est-ce que je peux utiliser, pour décrire le niveau de l'activité économique, il est bien évident que Q est la bonne variable, hein, pour décrire la consommation CC, est-ce que je peux donner un sens, par exemple, si Q est plus élevé, hein, si j'ai par exemple un delta C plus un delta I, où je veux comparer Q à deux périodes pas trop lointaines, est-ce que je peux dire quelque chose? Ben oui, évidemment, si... Je me mets par exemple en statique comparative, et si j'ai delta Q égale delta C plus delta I positif, ben je sais qu'il y a plus de production. Et je sais que l'utilité s'accroît pour le consommateur représentatif dans ce monde par rapport au monde voisin. Donc si je compare entre deux périodes, les indicateurs de mesure de performance que j'ai sont également des indicateurs de mesure de l'utilité, du moins lorsque je me limite à des petites variations et en un certain sens. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Alors, par ailleurs, le capital ici, K, c'est vraiment un résumé exhaustif du futur. Quand je connais K, je sais mon bien-être jusqu'à la fin des temps, puisque je sais ce qui va se passer avec ce niveau K. Je sais les prix, les taux d'intérêt, etc. Et c'est un résumé exhaustif du futur. Donc, je peux faire dans ce monde des comparaisons internationales, des comparaisons intertemporelles dans la limite que je viens de donner ici, hein, puisque tout ceci toutes les consommations sont congruentes à chaque période. Je peux faire des comparaisons internationales, bien entendu. Alors, il y a une première question qu'on peut se poser par rapport à ces études sur le bonheur. Imaginez que je sois dans ce monde et que je demande aux gens quel est leur niveau de bonheur, le niveau de satisfaction. Qu'est-ce qu'ils vont me déclarer? Est-ce qu'ils vont me déclarer que c'est U de CT, le niveau d'utilité aujourd'hui, ou est-ce qu'ils vont me déclarer que c'est U plus l'espérance de leur bien-être jusqu'à la fin des temps? Petite question qui reste plausible et pertinente, quel que soit le modèle que je vais prendre, mais qui a ici n'a pas de réponse évidente, c'est juste un point. Alors je vais faire juste une petite digression sur les anticipations, parce que les choses simples que j'obtiens dans mon monde simple, malgré tout, sont fondées sur une hypothèse d'anticipation. Par exemple, je vais... Je vais changer un tout petit peu ce monde en mettant de la monnaie. C'est la monnaie de retour avec la crise, money is back, comme on dit. Et donc, je vais mettre dans le monde un petit peu de monnaie. C'est-à-dire que je vais dire qu'à chaque période, il y a un bien qui s'appelle la monnaie, qui est le numéraire, qui est extrêmement virtuel d'une certaine manière. Mais les prix des biens sont exprimés en termes de monnaie à chaque période. Donc, le prix du bien, chaque monnaie, c'est un prix en termes de monnaie qui peut varier. Alors, dans ce monde, j'ai une infinité d'équilibres. Par exemple, je décide qu'il y a un taux d'inflation constant. Le prix du bien va croître au rythme du taux d'inflation. Tout le monde le sait. Je vais avoir le même équilibre réel, mais je vais avoir un équilibre monétaire où le prix du bien croît au taux d'inflation. Donc, j'ai une infinité de taux d'inflation. Alors, je vais mettre avec un taux d'inflation constant. Alors, je vais rajouter une banque centrale, c'est la mode également, hein, qui va choisir un taux d'inflation cible et qui va utiliser la règle de Taylor, c'est-à-dire qui va menacer de... Si le taux d'inflation va au-delà de ce qui est, visé, qui va accroître le taux d'intérêt nominal plus que proportionnellement à l'accroissement d'inflation. C'est ça, la règle de Taylor. Alors, il y aura toujours un équilibre, parce que pour l'inflation cible, il y a toujours un équilibre qui est le même. Mais en plus, je serais content de cet équilibre parce que, comme la banque applique la règle de Taylor, l'équilibre est stable en un certain sens. C'est pour ça qu'on dit que la règle de Taylor est bien, l'équilibre est déterminé. Alors, vous allez me dire, rien n'est changé aux conclusions précédentes. C'est exactement ce que je voulais souligner. L'inflation n'a pas d'importance, bien entendu, ni pour le PIB, ni pour le bonheur. Mais malgré tout, ceci met en exergue que ce qui se passe dans ce monde et l'idée qu'on se fait du bonheur ou de l'utilité qu'on va obtenir jusqu'à la fin des temps dépend des anticipations de l'inflation. On est dans un monde où la perception du futur passe par des anticipations sur lesquelles on peut discuter. C'est ça le point que je voulais mettre en exergue. Deuxièmement, je vais compliquer un petit peu le monde stylisé. Je vais introduire maintenant quelque chose qui ressemble à un gouvernement, c'est-à-dire je vais introduire un bien collectif. Un bien collectif, c'est-à-dire que l'utilité dans la période T, elle dépend de CT, ma consommation de la période T, et de ce que j'appelle Q de T, c'est-à-dire la consommation à la période T en quantité Q2 du bien collectif disponible à la période T, plus évidemment la somme actualisée des utilités des mêmes consommations jusqu'à la fin des temps pour chacun des deux biens. Donc j'ai simplement ajouté à mon monde un bien collectif qui est produit par le gouvernement. Alors le bien privé, lui, sa quantité produite est Q1, il est produit avec le capital et une partie du travail grand L1. Et Q2, le bien collectif, je suppose qu'il est produit uniquement avec du travail, pour ne pas me compliquer la vie, hein, qui est égal à L2. Donc la quantité de travail total qui est dans l'économie, c'est L1 plus L2. Alors dans ce monde, comme dans le précédent, tout va se passer, je vais avoir un système de prix, un prélèvement, mais à long terme, il faut quand même qu'il se complique. Hein, c'est-à-dire, il faut que je finance ce bien collectif. Donc, j'aurai un prélèvement grand T que je prendrai aux agents économiques. Alors, comment va changer la comptabilité dans ce monde ? Elle ne va pas changer beaucoup. Hein. Ce que je vais faire, vous voyez bien que je vais prendre pour PIB Q1 plus Q2. Hein, je vais revenir là-dessus, puisque c'est les deux choses que je sais mesurer. Hein, et je les mesure dans des unités congruentes, d'une certaine manière. Hein. Bon, la consommation, ça va être C. Je peux gérer toujours la consommation par grand C, l'investissement grand U. Alors, le revenu national, ça va toujours être RK plus WL, où L est égal à L1 plus L2, le travail qui est utilisé dans le secteur privé, le travail qui est utilisé dans le secteur public. Le revenu disponible des ménages, lui, va être, au contraire, RK plus WL moins T. Il faut que j'enlève, évidemment, ce que prélève le gouvernement. Donc la comptabilité ne change pas beaucoup. Maintenant, il y a une première question que je vais me poser. Donc si je mesure l'activité économique, j'ai envie de la mesurer toujours par Q1 plus Q2. Si je mesure la consommation, pas de problème non plus. Mais quel rapport entre le bien-être instantané et la mesure que je fais ? Ben, imaginons que je change CT et Q de T en augmentant, en faisant une variation delta C, delta Q. Alors, est-ce que delta C plus delta Q, changement de ma consommation plus changement de ma consommation en bien collectif, hein, ou de la production d'un collectif qui est aussi ma consommation, est une mesure du bien-être ? Est-ce qu'il est en ligne avec l'utilité instantanée ? Ben, oui, mais il faut des conditions. Il faut que la somme de ce que les gens sont prêts à payer pour une unité supplémentaire de bien collectif, si je me remets à la théorie standard des biens collectifs, hein, ou le consentement à payer du consommateur représentatif, ou la somme des consentements des consommateurs identiques, soit égale à 1. C'est-à-dire que pour une unité supplémentaire de ce bien collectif, les consommateurs soient indifférents entre cette unité supplémentaire et une unité supplémentaire de bien privé. Si c'est le cas, je suis comme tout à l'heure, la somme delta C plus delta Q me permet bien de comparer à des distances proches les différences de bien-être. De même, avec le bien-être intertemporel, je suis dans la même situation, car les utilités marginales de C, aujourd'hui, un peu plus de C ou un peu plus de K, sont les mêmes, K étant représentatif de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, puisque ici, le capital intervient uniquement pour le bien privé. Et donc, par extension de la marque précédente, delta C plus delta Q plus delta K, qui est quelque chose comme delta C plus delta Q2 plus delta K, qui est du type delta Q plus delta K, est représentatif à un sens du point de vue du bien-être. Donc le bonheur reste dans le PIB, enfin au tout moins localement. Là, on va compliquer encore, petit à petit. On verrait que maintenant, quand on essaie de faire la vraie comptabilité nationale, le passage dans chacune de ces dimensions n'est pas complètement gratuit. Dans mon modèle, il est assez facile. Dans le monde réel, il est un peu plus compliqué. Alors, la première extension, je vais introduire dans ce monde le temps de travail. C'est-à-dire que mon agent représentatif, il va décider du temps de travail qu'il va choisir en fonction du salaire qui lui est donné. Donc, il choisit de travailler, mais il choisit également son temps de travail. Donc, il y a une offre de travail, etc. Donc, j'ai une offre de travail qui est élastique. Donc, d'une certaine manière, je peux mettre en exergue le loisir, qui est à l'étoile, la quantité de temps dont je dispose, moins L prime, la quantité de temps que je fournis à l'économie. Et donc, dans la logique précédente, je devrais voir l'économie comme plus complexe, c'est-à-dire produisant non pas seulement du bien de consommation, du bien collectif, mais également produisant du loisir. en disant trois choses une manière de voir les choses, puisque c'est bien les choses qu'elle produit indirectement. Et donc, si je prenais cette logique, eh bien, je dirais maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme une mesure locale du bien-être, hein, j'ai une petite variation delta C, delta Q et delta L prime de delta L prime, c'est la variation de loisir, delta Q c'est la variation de bien collectif, hein, j'aurais dû l'appeler Q2 d'ailleurs. Eh bien, cette variation, elle a un sens au sens où s'il y a un accroissement, ça va de pair avec un accroissement d'utilité. Hein, c'est donc il y a une mise en perspective, il y a une mise en regard du point de vue de la mesure de l'activité, en quelque sorte, et du point de vue... Alors là, ce n'est pas la mesure de l'activité, parce que si j'ajoute le loisir, il ne mesure pas l'activité, mais l'indicateur que j'indique, que je mets en exergue ici, rend congruent la mesure de la performance et la mesure de l'utilité, et la performance incluant la production de loisirs. Donc ça, c'est une deuxième remarque, c'est ce que je devrais faire ici. Donc mon produit national, l'idée, c'est qu'il devrait ajouter, que je devrais ajouter à la production publique, à la production privée, la production de loisirs, et mesurer avec le taux de salaire. Alors c'est un peu naïf, mais c'est la logique un petit peu de l'approche que je suis en train de présenter. Alors une seconde extension, cette fois, maintenant, on est passé d'un monde dans lequel j'ai ajouté un bien. Hein. J'avais un bien d'abord, j'ai ajouté un bien collectif, ça fait un deuxième bien. J'ai ajouté le travail, ça fait un troisième bien. Maintenant, je vais en mettre un nombre quelconque. Hein, quand j'en suis, je me lance. Un nombre quelconque de biens privés et de biens collectifs. Alors, là, à nouveau, dans ce monde intertemporel, je vais avoir un équilibre de marché généralisé. Il va y avoir des prix à chaque période, il va y avoir des taux d'intérêt, etc. Alors, à nouveau... Si je suppose qu'il n'y a qu'un système de prix, c'est-à-dire que le bien collectif est financé, comme tout à l'heure, à partir d'un prélèvement forfaitaire, sans distorsion entre prix à la consommation et prix à la production, j'ai qu'un système de prix. Alors les conclusions précédentes subsistent. C'est-à-dire que P delta C, si j'ai entre deux situations à la même période, hein, où j'aurais d'un côté P delta C, ce serait la variation de la consommation mesurée avec le système de prix dont je pars, plus delta Q2, c'est la variation de la quantité de biens collectifs, plus oméga, le salaire, multiplié par delta L prime, la production supplémentaire ou positive ou négative de chômage, eh bien, ça se serait... Cette petite quantité, enfin, ce delta est en ligne avec le delta de bien-être du consommateur représentatif qui serait dans une situation ou la situation voisine. Donc il y a à nouveau une certaine congruence entre le point de vue du bien-être tel que je l'appréhende ici et le point de vue de la mesure, point de vue de la mesure qui quand même ici est tout à fait modifié par mon traitement du loisir. Alors ceci n'est vrai que naturellement que si la production de biens collectifs est optimale. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors là, je vais mettre en évidence deux, trois petites difficultés liées au passage du monde. Là, j'ai fait comme si c'était tout roulé facilement. En fait, évidemment, si je passe d'un monde où il y a trois biens à un monde où il y a N biens, j'ai un certain nombre de difficultés. Hein. Par exemple, dans le monde où il y avait N biens, un delta C positif était quelque chose de pas ambigu. Dans un monde où il y a N biens, vous avez P, qui est le système de prix, scalaire delta C positif. Alors, si... ça n'implique un accroissement de bien-être individuel que si delta C est petit. Vous avez un exemple ici, hein, j'ai un monde dans lequel il y a deux biens, la consommation de C1 selon l'axe des abscisses, C2 selon l'axe des ordonnées. Vous avez une... Vraiment, c'est dommage que je n'ai pas ce petit... Donc vous avez la droite de budget, vous voyez le consommateur choisit sur la droite de budget à peu près où il y a la flèche qui est à peu près au milieu du tableau. Hein. Et je fais un changement de consommation qui correspond à la seconde flèche qui est là-haut. Hein. Et vous voyez bien que pour ce changement de consommation, P delta C est positif, c'est-à-dire que c'est un panier de consommation qui est plus coûteux et qui est moins bien pour le consommateur. Il est moins bien parce qu'il est assez loin, etc. Donc, c'est la première difficulté. Alors, c'est l'image d'une difficulté plus profonde, c'est que si, par exemple, je veux mesurer l'inflation et que j'ai à comparer une situation dans laquelle il y a grand C avec premier vecteur de consommation avec un vecteur P et un deuxième vecteur de consommation C' avec un vecteur P'. Bah, j'ai plusieurs manières de mesurer l'inflation. Hein. L'une, ça consiste à regarder de combien s'est accru le prix de mon vecteur de consommation C initial lorsque j'utilise le système de prix P'. Donc c'est de prendre P'C sur PC. L'autre, c'est de regarder le panier de consommation auquel je suis arrivé C'. Et de regarder combien il vaut avec le système de prix P' et combien il valait avec le système de prix P. Ces deux manières non identiques de mesurer l'inflation, évidemment, ça reflète le même type de difficultés que j'ai donné ici, qui sont liées au changement de choix de consommation, qui sont induits par le changement du système de prix, etc. Autre difficulté, s'il y a deux systèmes de prix, et dans notre économie, il y en a évidemment plus de deux, mais dans un monde, par exemple, très simple de fiscalité optimale que j'avais décrit il y a quelques années, il y avait un système de prêt à la production, un système de prêt à la consommation. Lequel faut-il choisir ? Ben, ça dépend ce qu'on veut faire, comme je le dirai tout à l'heure. Donc, le dernier point est le plus massif, mais en même temps celui sur lequel je ne dirai pas grand-chose, parce que c'est qu'est-ce qui va se passer si... En passant d'un monde, je suis passé d'un monde où il y avait un bien à un monde où il y avait N biens. Maintenant, je vais passer d'un monde où il y a eu un consommateur ou des consommateurs identiques représentatifs à un monde où il y a beaucoup de consommateurs différents. Et bien, évidemment, les difficultés sont accrues, hein, plus que exponentiellement, d'une certaine manière, parce que d'abord, la première chose, la photographie de l'économie est plus complexe. Ce n'est pas un revenu qui vous intéresse, c'est en principe l'ensemble des revenus qui sont présents dans l'économie, la distribution des revenus. Ce n'est pas une consommation, c'est la distribution des consommations. Et évidemment, la mesure individualisée des évolutions du niveau de vie est plus difficile, ne serait-ce que parce que, faisant abstraction des effets éventuellement différents des dépenses publiques sur chacun des agents économiques, il faut évidemment tenir compte que même la mesure de l'inflation doit tenir compte du panier de biens que consomment les agents. Elle n'est pas la même selon les gens. Donc, ça, c'est facile à dire. C'est des problèmes évidemment considérables concrètement. Conceptuellement, on ne peut pas en dire beaucoup plus à ce stade. Deuxième chose, dans un monde où il y a beaucoup de gens, l'alignement des indicateurs avec le bien-être social, tel qu'on peut essayer de le mesurer, est évidemment beaucoup plus problématique. Parce que si moi je suivais ma pente d'économiste, je dirais dans ce monde-là, j'ai une fonction d'utilité qui est une fonction de bien-être social, qui agrège l'utilité des agents. Par exemple, on est bentamiste ou on est rawlsien, on essaie de faire quelque chose qui construit un bien-être social. Hein. Et évidemment, la mesure de la performance en regard de ce critère va être beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était dans mon monde de consommateurs représentatifs de tout à l'heure. En particulier, les hypothèses d'additivité vont sûrement pas être tout à fait convenables. Évidemment, le fait que la consommation soit égale à la somme de la consommation, si vous mettez des poids sur les agents, ça cesse d'être vrai. Hein, c'est la somme de la consommation multipliée par l'utilité marginale sociale des consommations, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, en toute rigueur, je vais passer rapidement, mais l'explicitation, on pourrait expliciter les objectifs redistributifs. Mais évidemment, aucune des sociétés dans lesquelles on vit n'explicite les objectifs redistributifs. Hein, ils sont... la résolution des problèmes distributifs dépend beaucoup du hasard, beaucoup de la logique politique, des changements de majorité, etc., de la compréhension qu'on en a, etc. Dans les modèles d'économistes que je vous avais présentés, on arrivait à le faire. Hein. On arrivait à optimiser le système fiscal et à expliciter la notion de valeur sociale des biens, qui devrait constituer une base pour la mesure sociale de la production. Et par exemple, si je faisais ça, si je revenais à des modèles que j'ai présentés ici, je vous dirais que la bonne mesure c'est de prendre les prix à la production, qui sont plus proches des valeurs sociales dans le monde de Diamond Marley, ce que je vous ai présenté. Alors naturellement, dans la comptabilité nationale, il y a beaucoup d'arguments pour, dans nos mesures, prendre les prix à la consommation, parce que ce sont ceux ou celles auxquels sont confrontés les consommateurs et qui permettent des évaluations de bien-être, des comparaisons de bien-être, au voisinage d'un panier de consommation pour chacun des consommateurs, d'une certaine manière. Bon, donc tout ceci est un vaste programme que je ne prétends pas du tout aborder, hein, et qui pose en particulier un problème parmi d'autres, celui des comparaisons internationales. Alors maintenant, on va être. Là, j'étais complètement conceptuel, j'étais dans mon monde assez simplifié. Je vais essayer de mettre en regard ces problèmes conceptuels avec des questions qui sont un peu plus proches des techniques de la comptabilité nationale et je dirais, du vocabulaire de la comptabilité nationale. Hein. Par exemple, je vous ai parlé de loisirs, je vous parlerai de. Je vous parlerai plutôt de la. Du travail au sein des ménages, de choses comme ça qui ressemblent plus, qui renvoient plus à la façon dont le débat est posé habituellement. Donc la première chose, c'est la mesure de loisir. Les aspects conceptuels, je vous les ai donnés. L'économie produit des choses, dont du loisir. Alors évidemment, si on produit du loisir, et la production ne mesure pas l'activité économique, si on met le loisir dans la production. Ça a évidemment des implications pour les comparaisons temporelles et les comparaisons internationales de l'économie. Quand vous comparez deux économies dans lesquelles la durée du temps de travail, par exemple, la France et les États-Unis étaient significativement différentes. Comment vous faites intervenir cette différence de loisirs, entre guillemets, différence de temps de travail, dans la comparaison du bien-être et, enfin, du point de vue cette fois beaucoup plus technique, la question est de savoir est celui de la valorisation du travail domestique. Donc, la suggestion théorique que j'ai faite était assez simple. Hein. Vous regardez, il y a tous les gens dans l'économie, il y en a ceux qui vont travailler, et ils ont du loisir qui est valorisé à leur salaire. Puis il y a ceux qui ne vont pas travailler, ben, ils ont également du loisir qui est valorisé au salaire potentiel qu'ils auraient sur le marché. Question, comment vous allez mesurer le salaire potentiel sur le marché ? Vaste question. Hein. Et la question qui est derrière, c'est comment vous traitez le travail domestique qui est effectué, et qui n'est pas évidemment valorisé sur un marché, et dont vous ne savez pas quels sont les salaires de référence des gens qui l'effectuent, ni d'ailleurs le volume du travail qu'ils effectuent. C'est l'exemple de Samuelson. Hein. Vous avez un professeur, il a une secrétaire qu'il paye pour taper ses textes. Un jour, il épouse sa secrétaire, elle continue à taper ses textes. Eh bien, le revenu national a diminué, ce qui n'est évidemment pas tout à fait satisfaisant. Donc, j'ai fait un peu écho à ces problèmes. Je ne prétends pas avoir suggéré des solutions pratiques, mais vous voyez bien la nature conceptuelle du problème. Alors, de même chose, je vais parler d'un autre problème qui est évidemment important et sur lequel je suis à nouveau pas du tout compétent, c'est sur l'inflation. Dans le modèle de référence, le niveau d'inflation anticipé est sans effet, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la mesure de l'inflation n'est pas pertinente, même dans le modèle de référence. Dans le modèle de référence, j'avais mis de la monnaie, etc. La mesure de l'inflation est évidemment quelque chose de faire. Alors, une première difficulté est que dans un monde à N bien, mesurer l'inflation, ça pose des problèmes. Je vous ai donné une toute petite idée tout à l'heure de la nature de cette difficulté. Mais il y a une deuxième difficulté qui consiste au fait qu'apparaissent des biens qui sont des biens nouveaux et dont je vais parler maintenant. Alors, la difficulté est la suivante, et c'est une difficulté à laquelle on est confronté, en particulier dans nos économies aujourd'hui, où il y a des taux d'innovation assez élevés. Vous avez un bien nouveau qui n'existait pas sur le marché hier, pour simplifier, peut-être qu'il existait sous une forme simplement expérimentale, et qui n'existait pas. Et puis, on lui met un prix. Question, on ne peut pas le comparer à un bien qui n'existait pas avant. Visiblement, ce bien incorpore une amélioration de qualité par rapport à bien existant. Quelle part faites-vous dans le nouveau prix qui est là-dedans d'une baisse de prix et quelle part faites-vous dans l'effet prix et de l'effet qualité ? Est-ce que son prix est à ce niveau-là parce qu'il est à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'amélioration de qualité, ou est-ce que c'est parce que, en fait, le prix a beaucoup baissé, mais il y a une amélioration de qualité. Compte tenu de l'amélioration de qualité, le prix a beaucoup baissé, comparé à l'objet qui était présent tout à l'heure. C'est une difficulté profonde. D'une certaine manière, presque insurmontable à un niveau complètement profond. C'est des objets tout à fait niveaux. Il n'est pas évident que vous sachiez évaluer la qualité. Ça a toujours un côté arbitraire. Alors, par exemple, la commission Boskin, qui s'était réunie aux États-Unis en 1995 et qui s'était interrogée sur la manière de fabriquer les indices d'inflation aux États-Unis, avait conclu qu'il y avait une surestimation de l'inflation, c'est-à-dire sous-estimation des effets de qualité, donc une sous-estimation de la croissance, de l'ordre de 1%. Alors, ce sont des conclusions sur le bien fondé desquelles je ne me prononce absolument pas, parce que je n'ai pas d'idée. Je sais que c'est des conclusions qui ont toujours été controversées. Je connais un certain nombre de gens qui les contestent. Un certain nombre de gens qui étaient dans la commission qui s'est réunie il y a quelques années, là, en France, à laquelle j'ai appartenu. C'est un vrai... Alors, le problème, je dis, c'est une difficulté incontournable. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a mesuré le revenu national avec Petit, donc j'ai dit 1765. Hein. La question, c'est que si je veux comparer le revenu national aujourd'hui sur Louis XIV, le PIB aujourd'hui sur Louis XIV, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas faire autrement que de comparer des trajets en diligence avec un trajet en TGV. On le fait à partir de toute une série d'évaluations progressives sur les modifications de qualité, mais on est obligé de comparer, qu'on le veuille ou non, c'est bien des trajets en TGV, des trajets en diligence, si je pousse un petit peu le bouchon. Donc, voilà mon petit bémol sceptique sur les... c'est sur la mesure de la qualité. Ah. Alors maintenant, on va venir à une autre question qui est aussi assez fondamentale et pas toujours très claire. La production publique est ici mesurée au coût de production. Alors c'est absolument satisfaisant pour la mesure de l'activité. On essaie de mesurer l'activité, enfin, une perspective keynésienne, tout ça a absolument un sens. Mais naturellement, c'est une référence normative discutable. Pourquoi ? Ben, il y a absence de mesure du produit. Le produit, c'est de l'éducation, c'est toute une série de services publics, etc. Donc on ne mesure pas le produit. Hein. Et donc ça pose évidemment des problèmes de comparaison intertemporelle des volumes, dont je peux donner une idée en prenant deux cas extrêmes. Enfin, imaginons que vous ayez un progrès ou une chute de la productivité dans le secteur public, hein, parce que complètement exogène, tombant du ciel ou dû à tout ce que vous voulez. Hein. Si entre T et T plus 1, la productivité publique baisse, la production mesurée ne se modifie pas. Et si entre T et T plus 1, la productivité publique augmente, c'est-à-dire que beaucoup de biens publics sont montés, la production mesurée ne se modifie pas non plus. Hein. Naturellement, ça se fait pas avec les productions marchandes, puisque les productions marchandes, on mesure les quantités avec les prix de marché. Ici, ça vient du fait qu'il n'y a pas identification des quantités produites et il n'y a pas mesure ici. Alors, de même, l'utilisation normative, c'est-à-dire l'additivité publique-privée, suppose que l'allocation des ressources est optimale entre privé et public. Tout à l'heure, dans mon modèle de cycle réel, j'avais dit que les consentements à payer pour le bien collectif étaient égaux à 1. Plus généralement, il suppose d'une certaine manière, pour l'interprétation normative que j'avais donnée tout à l'heure, que la politique publique est optimale. Alors, je vais revenir sur ces deux points en donnant deux exemples, hein, simplement. Premièrement, l'absence de mesure du produit. Et je vais mettre l'accent sur les questions de... difficultés de comparaison intertemporelle qui sont associées à ceci. L'exemple illustratif que je vais prendre est un exemple bien connu et que vous connaissez peut-être. Hein, c'est que les dépenses de santé, j'espère que je ne suis pas trompé en reprenant les chiffres, mais sont de 11% du PIB en France et de 15% du PIB aux États-Unis. La mesure de la performance agrégée, telle qu'on l'a fait, c'est la mesure par l'espérance de vie, est la même. Ou par d'autres indices. Enfin, il semble que la mesure de performance agrégée soit à peu près la même. Naturellement, ça affecte la comparaison internationale des PIB, puisque ça suggère que la productivité du système américain dans le système de santé américain est inférieure à la productivité du système français de production de soins. En tout cas, il est inférieur en regard de ces... c'est un point sur lequel je n'ai pas d'opinion, je ne connais pas suffisamment le système américain pour avoir la moindre opinion, mais c'est un point sur lequel les économistes américains que je connais sont d'accord. Ils pensent que c'est d'une certaine manière la bonne manière de dire les choses. Peu importe. Alors maintenant, il y a l'utilisation normative et l'optimalité de l'allocation des ressources entre privé et public. Alors, je vais prendre des exemples. Les exemples illustratifs sont évidents. C'est-à-dire ce que produit l'administration, il faudrait essayer de l'identifier. Par exemple, dans le cas des externalités, admettez que vous ayez, on va prendre deux cas, hein, vous avez une pollution et tout d'un coup, vous mettez une taxe qui permet de l'internaliser convenablement, c'est-à-dire qui fait reculer la pollution, etc. La production publique mesurée va pas changer, hein, alors qu'évidemment le bien-être va augmenter, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas mesurer la pollution, hein, voire la production publique va diminuer, hein, c'est-à-dire que les diminutions de dépenses de nettoyage liées à la pollution vont décroître. Dans l'autre sens, hein, qui a exactement la même saveur, qui est l'exemple qu'on donne le plus souvent, enfin, en tout cas, j'ai trouvé le plus souvent dans mes lectures rapides, hein, c'est la délinquance augmente, hein, ainsi que le nombre de prisons, le bien-être diminue, la production publique mesurée s'accroît. Alors, évidemment, on peut multiplier les exemples de genre, hein, ils sont liés au fait que dès lors que vous ne mesurez pas la performance, il y a évidemment des problèmes qui se posent. Alors, il y a un chantier considérable. Alors, c'est un chantier très, je dirais, très largement technique. Hein. Il n'y a pas de. Il y a en général pas de grandes difficultés conceptuelles. Hein, et il n'y a pas nécessairement non plus de remise en cause du modèle standard du bien-être. Mais c'est évidemment un problème très, très important qui est d'ailleurs souligné dans le rapport Sen-Stiglitz dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, j'ai mis l'accent sur ce qui se passait à l'instant T, hein, jusqu'à, pour l'instant, je vais regarder maintenant la dimension temporelle, hein, et parler un petit peu du capital. Alors, dans mon modèle simple de référence, le capital physique que je savais mesurer, qui semblait très facilement mesurable dans ce monde, hein, était un résumé exhaustif du futur. C'était quelque chose que j'avais à mesurer, c'était un bon indicateur, etc. Alors, il y a une première difficulté, c'est qu'il y a plusieurs sortes de capital. Il n'y a pas, même si j'accepte l'agrégation capital physique, il y a aussi ce qu'on appelle du capital humain, qui est la quantité d'éducation qui a été reçue par les gens qui sont présents dans une économie. Évidemment, beaucoup plus difficile à mesurer. Il y a un autre exemple assez simple, c'est les ressources rares non renouvelables. Si vous êtes un pays pétrolier, vous avez des ressources pétrolières, vous en perdez chaque année, hein, et votre revenu, vous devriez tenir compte du fait que vous amputez une partie de votre richesse ultérieure. Et donc, ce qu'il faudra voir, c'est le point de vue qu'on a dans mon modèle très simple, celui du revenu permanent, mais qui est évidemment très difficile à mettre en œuvre, que ce soit en matière de capital humain ou de ressources pétrolières. Mesure du capital naturel. Alors, je ne vais pas définir trop bien ce qu'était le capital naturel, mais j'en ai parlé dans mon cours, hein, au début du cours, je crois dans la troisième séance, hein, où j'ai dit que j'ai pris quand même... Ma métaphore pour le capital naturel, c'est la qualité du climat, hein, en quelque sorte. Alors, la qualité du climat, je peux le voir comme un capital naturel. Je m'étais demandé comment on pouvait valoriser ce capital naturel. Donc, je vais vous redonner un petit peu la réponse, sinon l'argumentaire. Hein. Alors, j'avais considéré qu'une baisse du capital naturel devait être vue comme un dommage irréversible à ce capital naturel. Dommage irréversible à l'environnement, c'est-à-dire une fois que vous l'aviez détruit, une unité, et vous ne pouviez pas le reconstruire. Parce que naturellement, si vous pouvez le produire, la valeur du capital naturel est liée à son coût de production ou de reproduction. Donc là, on va prendre un cas extrême où il s'agit d'un dommage irréversible à l'environnement. Hein. Et je lui avais proposé de voir, donc on perd du capital naturel, on le perd jusqu'à la fin des temps. J'avais proposé de le voir comme une perpétuité à la Keynes. C'est-à-dire quelque chose qui... une unité de capital naturel que vous avez perdue, elle vous donnait des choses jusqu'à la fin des temps, cette valeur du capital naturel, hein, et combien ça valait. Alors, une perpétuité à la Keynes, quand le taux d'intérêt est petit R, ça vaut 1 sur R. Si elle vous donne un euro jusqu'à la fin des temps, elle vaut 1 sur R. Et je vous avais montré que la perpétuité écologique que j'avais ici avait une valeur qui était égale à M, qui était la plus grande, enfin, une borne inférieure de sa valeur, c'est égal à M, ce que j'étais prêt à payer pour l'avoir à la période où je me trouvais, hein, divisé par un taux d'intérêt. Mais ce taux d'intérêt, j'avais dit que ce n'était pas le taux d'intérêt standard, c'était le taux d'intérêt écologique, hein, le taux d'actualisation écologique qui était beaucoup plus bas que le taux standard et que j'avais dérivé dans un certain nombre de cas. Et donc j'avais donné une réponse presque parfaitement satisfaisante, sauf que j'avais quand même qu'une borne inférieure à la question de valorisation du capital naturel. Alors, je conçois que cette réponse n'emporte pas nécessairement l'adhésion, ou en tout cas sa transformation en quelque chose d'opérationnel rapidement, mais c'est la bonne manière de procéder conceptuellement. Alors, malgré tout, cette question posait une autre question qui n'était pas dans mon modèle de référence. Dans mon modèle de référence, j'avais mes agents, ils étaient éternels. Là, quand on a valorisé le capital naturel, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui dépendaient d'un certain degré d'altruisme vis-à-vis des générations futures. Et donc, il y a une difficulté conceptuelle dans les mesures de capital naturel, qui est le traitement à donner aux générations futures. Donc, c'est un problème conceptuellement plus compliqué que ceux que j'ai abordés jusqu'à maintenant. Alors voilà, j'ai fait un petit peu mon tour d'horizon, en essayant d'expliquer ce qu'est la comptabilité nationale dans un monde simple, en essayant d'expliquer les problèmes de relation entre la mesure de la performance, la mesure du bien-être. Je ne prétends pas avoir dit des choses qui sont totalement triviales ou que je peux résumer en cinq mots, mais j'ai croisé les points de vue sur un certain nombre de questions qui sont des questions. C'est les questions telles que je les perçois, c'est les questions assez naturelles qui se posent sur ce sujet. Alors, je vais terminer en essayant de revenir cette fois à cette relation entre PIB et bonheur. Pour l'instant, j'ai été un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai pris un point de vue qui était plutôt celui de l'économisme, et de l'économiste d'économie publique, l'économiste normatif, mais qui restait assez proche du modèle standard de l'homo economicus. J'étais resté dans ce truc. En fait, si je prends la réflexion que je vous ai présentée, ou la réflexion qui est derrière ce que je vous ai présenté, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion sur la mesure de la performance, qui, à mon sens, va dans trois directions. Le premier point, c'est une certaine désagrégation de ce que j'appelle les points de vue. Il y a deux points de vue extrêmes. Vous pouvez prendre le point de vue de la société sur ce qui se passe, sur sa consommation, son capital humain, son capital, etc. Ou le point de vue de l'individu. Et donc, il y a un élargissement. Initialement, on essaie de prendre le point de vue de la société. Évidemment, pour enrichir ce point de vue, on passe naturellement à des choses beaucoup plus micro, qui consistent à demander ce qui se passe aux gens, à des groupes, etc. Il y a deuxièmement une complexification du monde économique et social. Direction dans laquelle je suis allé, c'est j'essaie de vous montrer que quand on compliquait le monde, on compliquait la vision qu'on avait de la mesure de la performance. Et il y a toute une série de réflexions qui vont dans ce sens, avec un homo economicus éventuellement plus sophistiqué, et une réflexion qui met l'accent sur ce qu'on pourrait dire toute une sorte, beaucoup d'externalités, certaines cachées, certaines moins cachées, du fonctionnement du monde économique. Par exemple, c'est lié à la nature de l'incertitude. J'ai évoqué le problème des anticipations. Il est bien sûr que dans un monde d'anticipation rationnelle, la discussion, même si vous gardez le point de vue de l'homo economicus, sur la manière dont il réagit, la manière dont il ressent son bien-être, n'est pas la même que dans un monde sans anticipation rationnelle, dans lequel il y a ce que j'appelle une incertitude intrinsèque qui peut être forte. Donc la nature de l'incertitude, son traitement joue un rôle. Dans un monde où on est parfait, où il y aurait une assurance chômage optimale au sens du second best, il est bien évident que le bien-être de l'individu, la manière dont il apprécie, ne va pas être la même que dans un monde où il y a une assurance chômage qui est beaucoup plus second best, voire third best, voire fourth best, voire non existante, etc. Donc ça, c'est la deuxième direction. Au fond, dire le monde économique est plus compliqué que ce que suggèrent nos références les plus immédiates. Et ça complique la mesure de la performance une fois qu'on a compris les enjeux. Puis la troisième direction, c'est évidemment une investigation plus approfondie de la détermination du bien-être, avec l'idée de dépasser la vision de l'homo economicus Et ce que font par exemple les gens qui font des études sur le bonheur, c'est avec une méthodologie spécifique. Ils demandent aux gens s'ils sont heureux, hein, ils leur demandent leur niveau de satisfaction. Et donc ceci m'amène, ce dernier point m'amène aux études sur le bonheur dont on avait parlé la dernière fois. La question dont était partie un peu Easterlin, comme l'avait expliqué Claudia Sénic, c'est le PIB fait-il le bonheur, hein? Ou est-ce que le PIB fait le bonheur, on ne fait pas le bonheur? Alors les résultats sont ambigus, je ne vais pas essayer de les résumer, parce que j'ai relu 4 fois le texte de Claudia Sénic, et je n'ai pas réussi à trouver un résumé qui me satisfasse. Donc je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est du surbonheur, elles participent, elles sont... là, je les ai reliées à mon troisième chapitre. En fait, elles sont beaucoup moins, c'est beaucoup moins net que ça. Elles participent souvent des 3 points de vue. Hein. C'est-à-dire que très souvent, elles donnent des coups de projecteur qui relèvent plutôt du... Par exemple, quand vous regardez la comparaison au sein des groupes de référence, vous regardez plutôt un niveau plus désagrégé. C'est le premier point de vue. Quand vous avez... Quand vous regardez des questions sur le chômage, comme les études de Clark et ses co-auteurs sur le chômage en Angleterre, montrant que les gens au début sont très malheureux, finissent par s'habituer, vous êtes à la fois dans des choses sur qui sortent de la détermination de l'homo economicus, mais qui sont aussi liées à une vision plus complexe du monde économique et social. Une vision plus complexe du monde économique et social, dans lequel le chômage... c'est quelque chose dont, contrairement à ce qui se passe dans le modèle très simple, la durée n'est pas évidente, la manière dont on s'en sortait n'est pas évidente, qui vous apporte une information sur le monde qui n'est pas décrite dans le modèle, etc. Donc ça relève un petit peu de ça. Alors naturellement, toujours l'accent est mis sur une question essentielle, hein, qu'est-ce que notre bien-être instantané, hein, c'est, j'espère que vous êtes tous heureux ici, est-ce que ça reflète le plaisir que vous avez à écouter des choses sur le bonheur ou aujourd'hui, ou peut-être le plaisir que vous aurez à en écouter plus tard, etc. Qu'est-ce que c'est bien-être ? Quelle relation y a-t-il bien-être instantané et bien-être dans la durée ? Bon, il y a toute une série de questions qui sont évidemment pertinentes et qui dépassent le domaine de l'économiste. Alors, je vais terminer... Je vais prendre les 3 dernières minutes là, pour essayer de donner un certain nombre de questions qui sont au-delà du modèle standard, dont la compréhension peut être vue comme la compréhension d'un problème économique, mais qui n'est pas bien défini dans le modèle standard, ou d'un problème qui va au-delà de l'économie, dans lequel il y a une dimension bonheur et une dimension économique standard. La première, satisfaction dans le travail. Dans mon modèle très simple, il était identique pour tous mes agents, qui étaient le clone de l'agent représentatif. Hein. Naturellement, ce n'est pas vrai dans le monde réel, et naturellement, ça a un effet sur le bien-être personnel. Est-ce que le chômage est un traumatisme question intéressante, ou comme le disent un certain nombre d'économistes de l'école de Chicago, un choix de loisir, hein, ces deux visions polaires du monde, ça aussi c'est quelque chose que l'on peut regarder à la fois avec les lunettes des études sur le bonheur, avec les lunettes de l'homo economicus un peu du monde de la logique économique complexifiée en quelque sorte. Alors la flexibilité dans un monde incertain, évidemment, là j'ai pas parlé, mais les capacités à la scène, vous avez entendu parler, hein, dans les capacités à la scène, et il y a l'indice de développement humain qui se réfère au niveau d'éducation, au niveau de la santé, mais également au niveau du PIB. Donc certains et qui sont censés indiquer évidemment l'éducation, ça me donne une flexibilité face à un monde complexe, face à un marché du travail complexe. Hein. Donc certains ont un sens dans le modèle standard, hein, c'est vraiment des choses liées au capital humain, d'autres ont moins de sens. Bon, les effets de l'inflation sur le bien-être, je l'ai déjà dit, je reprends ce point. C'est pas pertinent dans un monde simple d'anticipation rationnelle, mais dans le monde réel, les gens sont concernés par le niveau d'inflation. Ça, c'était une des choses que nous avait dit Claudia Sénic, et c'est normal, ils ont raison. C'était dans un monde économique complexe, le niveau d'inflation doit être concerné, simplement parce que dans le monde réel, vous n'avez pas des anticipations rationnelles sur le niveau d'inflation. Vous n'avez pas, même si vous avez des anticipations rationnelles, vous n'avez pas nécessairement les bons moyens de vous protéger, les marchés ne sont pas complets, etc. Donc c'est un peu à cheval entre les deux registres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le dernier point sur lequel j'ai terminé, parce que j'aime bien, parce que c'est le niveau de concurrence. Le niveau de concurrence, c'est vraiment une variable c'est une variable de notre système qui est déterminée par des décisions de politique économique. C'est une variable qu'on ne mesure pas, personne dans la comptabilité nationale la mesure. Ça, évidemment, on sent bien que ça a un certain effet sur le bien-être au sens large. Alors, dans le modèle, dans le monde standard, tel que j'ai décrit ici, la concurrence, c'est bienfaitrice. Puisque vous avez plus de concurrence, ça baisse les prix, tout le monde est content, etc. C'est la justification standard des politiques de la concurrence. Vaste sujet par ailleurs, sur lequel je ne pourrais pas résoudre en trois mots. Si ce que je pense sur ce sujet vous intéresse, j'ai écrit il y a quelques années un livre avec David Ankawa qui s'appelle Politique de la concurrence, qui est un rapport au Conseil d'analyse économique sur ce sujet. Et dans les 150 pages que nous avons sur le sujet, vous trouverez à peu près tout ce que je pense sur le sujet, si vous voulez. Alors, maintenant, quelle est la conjecture? Ça se souvient, c'est parfaitement gratuit, ça revient de discussions extrêmement. Des discussions d'après-dîner. Hein. Mais du point de vue individuel, il semble bien qu'il y a un certain niveau de concurrence qui est souhaité. Alors, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, la dernière fois, c'est Claudia Sénic nous a montré que les gens avaient un goût pour des organisations ouvertes, même si elles étaient inégalitaires, ou qui étaient inégalitaires, mais ouvertes. Hein, si l'inégalité est signe d'opportunité. Donc je crois que les gens ne détestent pas la concurrence. Et si on augmente le niveau de concurrence, ça peut avoir des effets bénéfiques. Il y a des arguments pour le penser, il y a des idées pour le penser. Et puis qu'au-delà d'un certain sens, un certain seuil, elle devient traumatisante. Que la concurrence extrême qui fait que par exemple le taux de rotation entre les entreprises devient extrêmement rapide, etc., le taux de l'adaptation, etc., doit être traumatisant. Donc ça c'est un sujet parfaitement ouvert. Je dirais c'est presque de l'économie standard, mais avec un autre regard qui est une idée du fonctionnement de l'homo economicus qui est un peu différente. C'est peut-être pas un essai d'appréhender le bonheur, mais c'est de regarder l'homo economicus un peu plus complexe que celui qu'on prend en compte habituellement. Voilà, et bien je vais du pied au bonheur, fin. Donc merci, et mon cours de clôture sera le mercredi 15 mai à 16h30, et je serai ravi de vous y voir. Merci.